C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Mais on continue sur la question des demandeurs d'asile queer. Laurent Francis Ngoumou, docteur en travail social, est un chercheur expert sur les questions des réfugiés queer. Il est bien au fait des situations comme celle de Bibi Kalalou. Laurent, merci d'être avec nous pour nous éclairer un peu sur ces enjeux complexes qui touchent autant le terrain au pays que sur la scène internationale. Merci d'être là, Laurent.
Merci, Denise Martin, de m'avoir invité et je dis bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent et je suis content de venir à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup.
Ben oui, t'es quand même un régulier. On aime bien t'inviter parce que t'as des connaissances qui nous aident beaucoup. Laurent, une fois arrivé sur le sol canadien, depuis, quels sont les deux plus grands obstacles systémiques auxquels les demandeurs d'asile queer font face immédiatement alors, quand ils arrivent ici?
Oui, en tenant compte de mes recherches, en tenant compte de mes travaux, mes enquêtes sur le terrain, notamment le rapport de recherche que j'ai rédigé en février 2022 avec Okasi et Franco Q à Toronto, qui s'intitulait « Guide de conseils, des pratiques et des techniques d'intervention pour le bien-être en santé mentale des personnes noires, LGBTQ, francophones, d'origine africaine et caribéenne ». Dans ce rapport-là, en tenant compte au fait aussi du rapport que j'ai publié avec mon collègue chercheur au fait aussi en 2024, favoriser le bien-être et l'intégration sociale des communautés racisées francophones LGBTQ à Toronto, à Ottawa, en tenant compte du rapport au fait aussi que j'ai été comme collaborateur sur les sujets de SLGBTQ+ au sein des communautés noires d'expression française, publiée en octobre 2024, et aussi en tenant compte, enfin, de ma thèse de doctorat publiée en décembre 2025, et aussi en tenant compte, au fait, l'article que j'ai publié dernièrement, l'article que j'ai publié à l'Université d'Ottawa, notamment dans leur publication intitulée « Les voix amplifiées », où je reviens sur mes recherches, au fait. Il en ressort que les demandeurs d'asile peuvent faire face à plusieurs obstacles systémiques. Parmi les deux principaux, tel que vous avez posé comme la question, l'accès aux services de santé et de soutien psychologique, au fait. Voyez-vous donc ici, un exemple, je dirais que si une personne demandeur d'asile arrive dans un centre communautaire ou dans un centre où normalement on reçoit les demandeurs d'asile et qu'elle est reçue, elle est mal reçue, elle va se crisper et ça va créer un stress en elle et ça va créer de l'isolement. Donc la première barrière, c'est que les services offerts ne sont pas adaptés à ces personnes-là. Il manque des professionnels, bien que certains disent des professionnels, mais il manque, je pourrais dire à 80%, des experts et des professionnels pour travailler avec ces personnes. Et maintenant, pour ceux qui sont dans le Canada anglophone, beaucoup d'intervenants ne parlent pas, ne s'expriment pas en langue française, il faut le dire, pour ceux qui sont francophones. Et comme deuxième point de la discrimination, la stigmatisation de la personne durant le processus d'immigration, il faut dire ici que pour ceux qui sont venus par l'aéroport, et aussi ceux qui sont ancrés par les chemins Roxane, le processus est long, le processus d'asile est long durant cette période-là, et le processus est, comment dire, écruffé de racisme et des biais qui rejettent, qui déshumanisent la personne, en fait. Parce qu'il faut aussi dire, il y a des cas de demandeurs d'asile qui arrivent, qui ont déjà leur asile depuis le HCR dans les pays tiers, en lien avec la Convention de Genève de 57 et
Je dois intervenir parce que je veux qu'on avance, qu'il y a des choses importantes à dire dans tout ça. On sait que souvent, la personne qui arrive ici dans un statut de demandeur d'asile, elle arrive avec un traumatisme de parcours, un traumatisme de ce qu'ils ont vécu, l'isolement social. Est-ce qu'on est assez équipé pour recevoir ces personnes-là d'une façon intelligente?
La question que vous posez, la question elle est importante sur le plan didactique, ça permet d'enseigner la personne. Donc, pour revenir à la question, la personne qui arrive qui a été stigmatisé dans son pays d'origine, qui porte un parcours pré-migratoire, peut-être a fait du travail de sexe pendant son parcours pré-migratoire, qui a été discriminée lorsqu'elle arrive ici. C'est bien beau, il y a certains spécialistes, mais il y a un manque de spécialistes pour ces cas particuliers, parce que il y a un manque de spécialistes pour comprendre ces cas particuliers. Généralement, les organismes aujourd'hui font des formations en ligne, mais ce ne sont pas des spécialistes au fait.
Oui.
Des gens ont des certificats, mais ils ne peuvent pas remplacer des vrais spécialistes au fait.
D'accord. Juste avant d'aller au prochain point, il y a aussi le système de détermination, à savoir qui est réfugié, qui ne l'est pas, et sur la base de l'orientation sexuelle, le processus ne fonctionne pas toujours pour déterminer la crédibilité là, de la personne qui fait cette demande-là. Et souvent, parce qu'on sait que les personnes qui viennent de certains milieux où c'est très réprimé d'être queer, bien évidemment, ça va être plus difficile quand il arrive devant un tribunal ou une audience d'une commission de parler de sa vie.
Oui, effectivement, c'est dans le processus. On verra, par exemple, que le 9 mars, le journal La Presse canadienne publiait que, selon la commission sur l'immigration, la commission sur l'immigration et sur l'immigration et statut du réfugié disait qu'au moins 35 000 personnes demandeurs d'asile ont été acceptées sans audience en personne depuis 2019 au Canada. Ça veut dire que des personnes les personnes ont écrit des textes disant qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine à cause de leur orientation sexuelle et à cause de leur identité de genre, mais parce qu'ils connaissent déjà le processus, alors que dans mes enquêtes, je me suis rendu compte que certains n'étaient réellement pas homosexuels, au fait, mais ils ont obtenu l'asile parce qu'ils savent comment, quels sont les arguments,
Comment le dire, comment le faire, mais ça nuit aux personnes qui sont vraiment en statut de demande de réfugié en vertu de leur orientation sexuelle ou identité de genre.
Oui, de plus en plus, on assiste à ce que j'appelle dans mes travaux de recherche et dans ma thèse de doctorat et aussi dans mes travaux, ce que j'appelle la désacralisation du droit d'asile. De plus en plus, ici, je veux parler, par exemple, de mes recherches de terrain, de trois cas que j'ai connus dernièrement. J'ai interviewé un Nigérien et trois Sénégalais. Et je leur ai posé la question que depuis quand vous êtes arrivé au Canada, il y a les Sénégalais me disaient qu'ils sont arrivés en 2023, l'autre me disait en 2024, et par contre le Nigérien me dit qu'il est arrivé en 2024. Et je lui ai posé la question de savoir comment est-ce que, en tant que chercheur, comment est-ce que, sur quelle base vous demandez l'asile au Canada? Ils me disent, les quatre, ils me disent qu'ils demandent l'asile en tant que personne homosexuelle. Je leur pose la question, est-ce que vous êtes des personnes homosexuelles? Ils me disent ouvertement que non, ils ne sont pas homosexuels, mais on leur a conseillé de demander l'asile en tant qu'homosexuels.
Ah, mais il y a vraiment des problèmes, hein?
Ah oui, et cela soulève un autre problème en tant que chercheur. Je me rends compte que les personnes afro-cueurs qui sont en Afrique, ne peuvent pas voyager parce qu'ils n'ont pas de moyens. Mais les gens qui voyagent, qui arrivent au Canada, tels que les étudiants internationaux, tels que les visiteurs, ça veut dire qu'ils ont des moyens. Ce sont des personnes qui ont des moyens, mais qui viennent demander l'asile, au fait. On a, par exemple, jusqu'en février 2025, là, on rapportait 1325 étudiants internationaux. Et entre-temps, sans compter qu'en 2023, depuis 2022, 2023, 2024, 2025, beaucoup d'étudiants internationaux, on a plus de 23 000, ont obtenu l'asile au Canada. Ils sont venus en tant qu'étudiants et ils ont demandé l'asile, au fait. Et bizarre, ce qui est bizarre, c'est que dans mes enquêtes de terrain, en tant que chercheur, je remarque que certains ont eu de l'asile, mais ils vivent une vie hétérosexuelle, au fait.
Ouais.
Et on se
Et
retrouve avec des
ça nuit à
personnes.
des gens comme on a entendu un peu plus tôt à l'émission, Bibi Kalalou, qui lui est réellement une personne queer qui cherche à venir au Canada puis il arrive pas à venir ici. Ça
Exactement.
cause des problèmes. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais qu'on parle quand même d'une situation qui est très importante. Le Sénégal. Le Sénégal vient de voter une loi doublant les peines de prison pour homosexualité. Ça peut aller jusqu'à 10 ans de réclusion. C'est quoi ton analyse que tu as fait, Laurent, de cette situation-là?
Mon analyse que j'ai faite de cette situation-là, c'est que on vit dans une hypocrisie, au fait. On vit dans une société où il y a beaucoup d'hypocrisie. On sait bien que dans mes travaux de doctorat, mes travaux de recherche, au fait aussi, en études comparatives, mes travaux de doctorat montrent effectivement que les personnes homosexuelles ont toujours vécu au Sénégal, bien avant l'esclavage, bien avant la colonisation. Donc, c'est qu'on appelle les Gorzigen. Les Gorzigen ne sont pas nés en 2026 au Sénégal. Mais le problème, c'est que la société vit dans le déni. Dans le déni. Et je citerai par exemple, au fait aussi, le lauréat du prix Goncourt 2021, avec son roman Des purs hommes, Mohamed Boukhar Sarr, qui a gagné le prix Goncourt en 2021, avec son roman publié en 2018, Des purs hommes. Ou dans ce roman, qui est sénégalais au fait aussi, qui démontre qu'au Sénégal, dans ce roman, il raconte l'histoire d'un homme qui est mort et qu'on a enterré dans un cimetière. Et parce que on a raconté que cet homme était homosexuel, les gens de la commune ont exigé qu'on déterre le corps de cette personne homosexuelle de ce cimetière. Et dans ce roman, de roman qui a gagné un grand prix de littérature internationale, l'auteur sénégalais démontre qu'en effet, les personnes homosexuelles ont toujours vécu au Sénégal, existent, ils sont inhérentes à la société sénégalaise. Cela revient à ce que, par exemple, en 2022, non pas en 2022, parce qu'il faut bien lire les dates, il faut bien je donne des dates là, parce que voyez-vous que dernièrement, le Premier ministre Sonko actuel, il a reçu Jean-Luc Mélenchon, et il a dit à Jean-Luc Mélenchon que effectivement, les Gordigens existent au Sénégal. Les Gordigens, ça veut dire des hommes qui s'habillent en femme et qui sortent avec d'autres hommes, en fait. Et il lui disait à Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme politicien français, il lui disait effectivement que on accepte les Gordigens du moment ils font leur sexualité dans le noir, qu'ils sont dans le placard, là on les accepte au fait. Mais qui n'accepterait pas qu'on fasse des prides au Sénégal, qu'on apporte la manière de penser de l'homosexualité occidentale au Sénégal? Et aujourd'hui, on a ce même Premier ministre qui a proclamé l'autre jour ces lois qui criminalisent les personnes LGBTQ au Sénégal.
Laurent, Francis Ndengoumou, on pourrait en parler en long et en large, mais on va encore une fois, on te réinvite assez régulièrement à l'émission, fait qu'on va certainement en reparler. Merci beaucoup pour tes lumières. C'était très
Merci
important.
beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne
Merci.
journée.